Merci d'écouter Radio Bonheur. Il est 19h07. Bienvenue dans le magazine des déchaînés du football en direct sur Radio Bonheur. Le magazine des déchaînés du football en direct ce soir, en direct de Guingamp au Roux-de-Roux, pour vous présenter ce magazine de 19h à 20h30, car nous enchaînerons juste après le magazine avec le match de football de ce soir, match de Ligue 2. Guingamp recevra Auxerre, c'est à vivre en direct et en intégralité ce soir sur Radio Bonheur. Le magazine avec Sébastien en studio. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous.
Nous retrouvons également directement au stade, cette fois-ci, Pierre-Henri Dufay et Gaëtan, Monsieur Gaëtan Pinel. Bonsoir messieurs.
Monsieur Pinel même. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à tous.
Qui a enfin gagné avec ses merlus.
Première fois de la saison, ça se fête.
Ça faisait 8 mois qu'il n'ait plus gagné.
3 buts à 1. Bah oui, forcément, avec le Covid et l'absence de match. En même temps, c'était compliqué de gagner quand on ne jouait pas. Bon, les merlus, c'est vrai, se sont imposés. On va y revenir. 3 buts à 1. Même score, mais dans l'autre sens, cette fois-ci pour Brest également ce week-end. Défait à la Beaujoire, 3 buts à 1. Et puis pour Guingamp, eh bien, ça va se jouer ce soir. Match à 20h45 avec la réception d'Auxerre. Le faux pas serait malvenu pour les Guingampais ce soir sur leur pelouse. On parle Ligue 1 tout d'abord avec Brest, messieurs.
Oui, le Stade Brestois battu hier après-midi sur la pelouse de Nantes, 3 buts à 1. Un match qui a surtout été marqué par les carences défensives du Stade Brestois. Encore, ça avait été le cas sur le début de la saison.
Pourtant, après un super match contre Monaco.
Et justement, il y avait eu ce match contre Monaco qui laissait espérer que Brest avait peut-être trouvé certains repères défensivement, une certaine solidité. Tout est un peu remis en question à ce niveau-là après la défaite d'hier 3-1 à Nantes. On va tout de suite écouter le résumé dans les conditions du direct et en musique de cette défaite des Brestois sur la pelouse de Nantes. Même si sur cette situation c'est Nantes qui attaque avec ce long ballon vers Marcus Coco dans la surface de réparation. Il tente de s'emmener le ballon, pied droit puis pied gauche ensuite. Oh, la frappe qui passe à côté, c'est pas terminé. But, le but nantais, l'ouverture du score un petit peu contre le cours du jeu. C'est Randal Kolo Muani qui ouvre la marque en faveur du Football Club de Nantes à la 16e minute de jeu. Un petit festival de Marcus Coco. Allez, faut essayer d'être dangereux là-dessus. C'est joueur de temps avec la frappe de Perrault ensuite qui avait été décalée par Romain Fèvre. Et ce ballon est capté par Alban Lafont. Et voilà, ils se montent, ils sont présents, ils sont là pour leur équipe. Leur équipe en tout cas qui mène à zéro. Attention à Ludovic Blas qui perce dans l'axe. Ludovic Blas dans la surface de réparation. La frappe est deuxième but. Ludovic Blas cette fois qui punit le Stade Brestois. Brest qui a concédé une nouvelle occasion et qui concède donc un nouveau but. Il y avait eu tout à l'heure l'alerte et l'avertissement avec le but refusé à Marcus Coco. Cette fois, celui-là, il est accordé à Ludovic Blas. Et Nantes mène 2-0 face à Brest. Est contré par Fabio et là ça offre clairement une possibilité d'attaque au Nantais avec Kolo Muani côté gauche pour retrouver Fabio dans la surface de réparation. Déjà la frappe sur la barre, la frappe de Fabio. Ludovic Ball sur le côté droit, allez face à Marcus Coco, peut-être enfin une vraie occasion de but pour les Brestois. La frappe ensuite dans le dessus, c'est pas possible. Oh, il était à l'entrée des 6 mètres. C'était Romain Perrault qui était monté aux avant-postes. Position de hors-jeu, encore les Brestois déséquilibrés défensivement. Kolo Muani qui va frapper l'arrêt cette fois de l'arseneur. Un droitier peut aussi s'essayer à la frappe sur ce ballon. Ce sera pour le gaucher Fèvre de la lucarne. Et la réduction de l'écart. Le troisième but cette saison de Romain Fèvre. On l'a dit depuis le début de la deuxième mi-temps que rien n'était terminé dans ce match. Que de plus en plus, les Brestois étaient dangereux offensivement. Eh bien, ils sont récompensés avec ce but de Romain Fèvre. Et quel but ? Coup franc direct. 2-1. Simon qui va provoquer cette fois Julien Fossurier. Simon sur son pied droit dans la surface en retrait vers Bamba. Bamba sur la frappe et le troisième but nantais qu'il ne fallait surtout pas qu'il arrive. Eh bien arrive pour le Stade Brestois, 3 buts à 1 pour le Football Club de Nantes. pied droit à nouveau. Il y a plusieurs Brestois à être montés. Ils sont 6 dans cette surface de réparation. La déviation de la tête et la parade d'Alban Lafont pour détourner ce ballon au corner alors qu'il la laisse loger sous la barre. Simon pour les Nantais, la frappe, le poteau. Surtout terminé, Brest s'incline à Nantes, 3 buts à 1 et c'est fortement logique.
Ouais. Et ces pauvres Brestois qui auraient pu prendre encore plus de buts, hein, Gaëtan, ça a été assez paradoxal ce match, parce qu'en même temps, à certains moments, on a cru que les Brestois allaient revenir dans le match, notamment après leur réduction du score lorsqu'ils sont revenus à 2-1. Ils ont eu un bon moment, il y a eu 10-15 minutes où les Nantais justement aussi étaient moins bien et étaient sur le reculoir, et on avait une équipe de Brest qu'on sentait capable de revenir, pourquoi pas à 2-2, mais vraiment globalement beaucoup trop perméable, cette équipe de Brest qui aurait pu prendre 5 ou 6 hein, dans ce match.
Exactement,
finalement.
Exactement, ouais. Parce qu'il y a eu deux poteaux, enfin une barre et un poteau, il y a eu 2-3 aussi gros arrêts de Gauthier Larsonneur et surtout beaucoup trop d'erreurs accumulées par les Brestois tout au long de la partie. Alors c'est vrai, il y a eu une petite accalmie après le but de Romain Fèvre, on pensait même que Brest allait peut-être pouvoir revenir à deux partout, et puis finalement non, il a fallu une nouvelle fois d'une approche approximation défensive pour qu'Abdoulkader Bamba marque le troisième but nantais. Tout ça reste fragile donc derrière pour la défense brestoise d'Olivier Dalloglio, qu'on écoute d'ailleurs l'entraîneur des CIF.
Oui, effectivement, ce qu'on aimerait retrouver, c'est un peu de régularité par rapport à ça. Donc on avait trouvé de la solidité contre Monaco. Là, on l'a oublié. Mais on fait une mauvaise entame. Donc on n'est pas dans la détermination, on n'est pas solide, on perd beaucoup de duels. De toute façon, on a perdu énormément de duels sur ce match-là. Et derrière, bien sûr, comme je vous ai dit, on se fait punir. Donc, il faut effectivement qu'on soit plus solide, un peu moins naïf, ouais, aussi. Et on sent qu'encore, on est fragile dès qu'il y a quelque chose de nouveau ou qu'on a un petit pépin, etc. On sent une fragilité dans l'équipe. Mais ça, il va falloir le bosser. Ça fait partie aussi du mental.
Oui, il y a un mot qui ressort dans cette déclaration d'Olivier Dalloglio, c'est le mot naïf. Brest a été naïf sur certaines situations défensives, notamment sur le deuxième but, marqué par l'ancien Guingampais Ludovic Blas, qui a transpercé le milieu de terrain et même la défense pour finalement contourner Christophe Herel et marquer. Il y a une passivité incroyable des Brestois sur cette situation-là. Ils n'ont pas été du tout en mesure d'intervenir. En tout cas, ils ne sont pas intervenus à proprement parler. Jean-Kévin Duverne a essayé... on va dire en dernière solution juste avant la frappe de Blas, mais il est passé au travers aussi, et ça a été vraiment peut-être le but symptomatique de cet après-midi-là pour Brest hier. On écoute d'ailleurs Olivier Dalloglio qui revient sur la naïveté qui a vu Nantes inscrire son deuxième but de la partie.
Ah bah oui, il traverse le terrain, on le laisse faire. Oui. Non, on n'était pas prêt. On va dire après, on peut analyser et tout, mais on n'était pas prêt. Je n'ai pas trouvé non plus des intensités de course que je vois d'habitude. Donc, il manquait beaucoup de choses.
Ouais, surtout défensivement, il manquait beaucoup de choses à cette équipe brestoise. Pas
exactement.
Suffisamment naïve, mais aussi. Comment dire, statique, pas suffisamment agressif sur le porteur du ballon. Ça s'est remarqué à plusieurs reprises dans ce match et Nantes n'en aura même pas trop profité, hein, finalement. Ils ont marqué 3 buts.
Non,
mais
parce qu'il y aurait pu avoir presque le double, hein, on a envie de dire.
Il y aurait pu avoir 5-6 buts pour Nantes. Il y avait rien.
C'est ça.
Il y a eu quand même un poteau, une transversale. Enfin, Nantes aurait pu aggraver la situation. Hein.
Oui. Bon, il y a cet aspect défensif qui inquiète parce que ça fait quand même 15 buts concédés en 7 matchs. Ça fait plus de 2 par match en moyenne. C'est énorme. C'est la pire défense d'ailleurs pour l'instant du championnat. Non seul Strasbourg fait pire avec 16 buts concédés, mais c'est évidemment inquiétant, surtout quand le secteur offensif n'est pas non plus dans son meilleur jour. Et surtout sur la première mi-temps, Brest a été. Bon, il y a eu, on va dire, de la 5e à la 20e minute. On sentait que Brest commençait à trouver ses repères offensivement. Problème, il y a eu le premier but qui est arrivé, puis le deuxième très vite à la demi-heure de jeu pour Nantes. Et l'attaque s'est peu à peu éteinte. Conséquence, Olivier Dalloglio a été obligé de changer beaucoup de choses à la mi-temps et a notamment procédé à deux changements puisque Jérémy Ledouaron et Irvin Cardona ont respectivement remplacé Gaëtan Charbonnier et qui c'est qui était sorti également, Romain Philippotto. Voilà, des changements à la mi-temps parce qu'il fallait trouver une certaine solution. Et justement, il explique son choix assez radical de procéder à deux changements de la pause, l'entraîneur Olivier Dall'Oglio.
C'était nécessaire, mais en fait, on aurait pu changer d'autres joueurs. Hein. Il y a deux joueurs qui sont sortis à la mi-temps parce qu'en fait, on est mené 2-0 et qu'il faut tenter des coups, prendre encore plus de risques. Et que j'ai des garçons aussi sur le banc qui sont voilà qui doivent être prêts à pallier à certaines défaillances. Donc c'est surtout sur le plan tactique. Mais je peux sortir à la mi-temps 4-5 joueurs.
Oui, 4-5 joueurs facilement. Il aurait pu sortir de ce match.
Il aurait pu.
Alors, ça aurait été faire 5, tous les changements d'un coup. Mais oui, parce qu'il y avait des carences défensivement. Mais forcément, c'était pas non plus le meilleur jour des Brestois. Ça a pourtant été mieux en deuxième mi-temps. Avec, on l'a dit, notamment ce but de Romain Fèvre, un sublime coup franc direct. Il y a eu aussi une superbe situation pour Perrault, une autre pour Cardona, une autre encore pour Steve Mounier. Problème, ils n'ont pas réussi à marquer ce deuxième but qui aurait vraiment plongé dans le doute cette équipe nantaise et qui aurait peut-être même pu derrière faire basculer la partie. Au lieu de ça, Brest est retombé dans ses travers et il le regrette, l'entraîneur brestois, parce qu'il y avait pourtant la place et les occasions pour revenir dans ce match.
La deuxième mi-temps m'a plus plu que la première. On a été beaucoup plus dans la profondeur, il y avait beaucoup plus de respect dans ce qu'on avait demandé et on s'est procuré beaucoup plus d'occasions sur la deuxième mi-temps.
Exactement, beaucoup plus d'occasions, mais un seul petit but et quand Nantes en a marqué 3 hier après-midi. Conséquence au classement, eh bien le Stade Brestois est 13e avec 9 points, 3 victoires.
Bon, pas de panique quand même.
4 défaites. Ouais. Voilà, pas de panique parce qu'il y a 6 points d'avance quand même sur Strasbourg qui est 18e et 7 sur les deux derniers que sont Reims et Dijon. En sachant que Brest reçoit Strasbourg, justement, le barragiste, dimanche prochain.
Ouais, là,
ce sera un match à gagner pour vraiment faire le creux, avec cette zone du classement et se mettre dans des eaux plus tranquilles, déjà.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant ce match, hein, je le disais, moi, c'était du bonus pour les Brestois. Ça aurait été du bonus pour les Brestois que de prendre quelque chose à la Beaujoire, parce que c'est le match contre Strasbourg qu'il faudra absolument gagner. Là, les Brestois étaient à l'extérieur, bon, contre une équipe de Nantes qui devait absolument prendre des points. Hein. On en a parlé aussi avant le match. Nantes n'était certainement pas à son niveau au classement non plus, en flirtant avec les relégables. Voilà, on se doutait qu'il allait avoir une réaction nantaise aussi et qu'on aurait un meilleur jeu du côté de Nantes. Voilà, maintenant, les points sont à prendre contre Strasbourg. Et là, par contre, il ne faut pas se louper pour Brest. Là, il y a effectivement beaucoup plus d'enjeux dans le prochain match des Brestois.
Oui, Strasbourg qui prend beaucoup de buts, vous le disiez Gaëtan, je les ai commentés hier, c'est très fragile derrière, hein. Kenny Lala, il est à des années-lumière du joueur qui était très proche de l'équipe de France fut un temps, Mitrovic, on l'avait vu aussi à Lorient, c'est très fébrile, Camara a fait une erreur, le gardien, donc il y a un coup à jouer, par contre attention parce qu'offensivement il y a des armes, notamment Habib Diallo, l'ancien buteur de Metz qui est arrivé, qui a marqué hier. Voilà, mais je voulais revenir juste pour cette partie maintien parce que on voit quand même que dans ce début de saison, il y a 3 équipes qui sont, pardonnez-moi l'expression, mais un peu à la ramasse, parce qu'il y a 4 points d'écart entre Lorient 17e et Strasbourg 18e. D'ailleurs, Reims et Dijon sont tous les deux à 2 points. Et quand on regarde les 10 derniers clubs qui avaient 2 points seulement après 7 journées, eh bien 8 sont descendus. Le dernier en date, c'était Guingamp. mais Dijon, par exemple, l'année dernière, avait aussi 2 points. Après 7 matchs, mais c'était maintenu. Il y a Montpellier qui l'a fait en 2015-2016, mais sinon tous les autres sont descendus. Donc ces deux équipes-là sont déjà un peu dans la panade. Et pour avoir fait aussi Dijon, vous allez bientôt les voir, je crois,
bien sûr,
cher Gaëtan.
Bien sûr, dans 2 semaines avec Lorient.
C'est assez inquiétant aussi, surtout pour Dijon, je pense.
Eh bien, Brest, d'en profiter donc la semaine prochaine déjà contre Strasbourg pour creuser l'écart avec cette zone basse du classement. Une petite page de pub et puis on va basculer sur le résultat positif du week-end. Le Football Club de Lorient qui s'est imposé à Reims 3-1. Et pour revenir sur ce match, on aura avec nous Quentin Boigard en direct. À tout de suite.
Affaire. Accompagner les entrepreneurs dans la prévention des risques, c'est important pour Generali. Nicolas Paoli, vous êtes assureur, agent Generali, et à l'origine d'un partenariat avec Fragrance Foundation France, qui rassemble une grande partie des entreprises du parfum. Qu'est-ce qui vous a motivé ?
Eh bien, encourager les entreprises sur le comportement responsable et grands sujets environnementaux, c'est aussi mieux maîtriser les risques. Étant engagés nous-mêmes depuis plus de 20 ans sur ces grands enjeux sociétaux, il était naturel d'être dans cette démarche pour Generali.
Eh bien, merci beaucoup, Nicolas.
Plus d'infos sur generali.fr.
Au fait, t'as une Volkswagen, toi, non ?
Oui, pourquoi ?
Eh ben, parce que Volkswagen t'offre le contrôle technique.
Et y a pas de surprise ?
Bah, si, puisqu'il t'offre le contrôle technique.
Non, mais je veux dire de mauvaise.
Non.
Le contrôle technique est offert chez Volkswagen et c'est sans surprise. Offre valable chez les réparateurs agréés Volkswagen participants jusqu'au 11 décembre, hors éventuels travaux et contre-visite. Conditions sur Volkswagen.fr.
Il faut que je pense à faire ma vidange. 20 000 km, c'est la limite. Mais mon budget aussi est un peu limite.
Avec Oscaro.com, il est très facile de faire soi-même sa vidange.
Tout seul, c'est possible.
Oui, Oscaro vous propose toute la gamme des huiles totales adaptées à votre véhicule. C'est vraiment simple et très économique.
Je me lance.
Oscaro.com, numéro 1 des pièces auto neuves et d'origine sur Internet.
Et si on faisait le plein de gigas sur mobile et tablette ?
Moi, avec les nouveaux forfaits Orange, j'ai un max de gigas.
Et moi, mes gigas, je les utilise sur mobile et sur tablette avec mes deux cartes SIM.
Ouais, mais moi, ils sont compatibles 5G. Je suis prête pour le futur.
Ouais, bah, tu me diras comment c'est.
Des gigas à gogo sur vos équipements avec les nouveaux forfaits Orange compatibles 5G. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 18 novembre. Engagement 12 mois, forfait compatible avec le réseau 5G d'Orange à partir de décembre 2020 dans les zones déployées. Conditions et couverture sur orange.fr.
Plus de design, plus de technologie, plus de confort. En ce moment, pendant les journées Audi All Access, bénéficiez de 2 500 € d'équipement offerts sur votre Audi A1, A3, Q2, Q3 ou Q5. Plus d'Audi, plus de rêves. Configurez votre nouvelle Audi sur Audi.fr.
Offre non cumulable sur Audi A1, A3, Q2, Q3 ou Q5 9 dans le réseau Audi participant jusqu'au 30 novembre 2020. Conditions sur Audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
À tous ceux qui ont 2 enfants et donc 84 repas à préparer par semaine. À ceux qui se préparent aussi à manger pour le midi au bureau. Et à ceux qui pensent que les mois ne devraient faire que 25 jours, parce qu'on se passerait bien des fins de mois, non ? En ce moment, Intermarché bloque le prix d'une sélection de fruits et légumes, comme le filet de 2 kg de carottes Origine France à seulement 1,79€. Soutenir votre pouvoir d'achat, c'est aussi ça être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 31 octobre, soit 90 centimes le kilo, catégorie 1, modalité sur intermarché.com.
On retrouve Soyons Proactifs avec Cerise de Groupama.
Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec vos béquilles, voyons.
Vous savez, Cerise...
Quand on est commerçant comme nous...
Si on s'arrête, on n'a plus de revenus.
Et les factures, il faut bien continuer à les payer.
C'est pour ça qu'avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre rémunération en cas d'arrêt de travail. Vous soutenir, vous et tous ceux qui participent à la relance de l'économie locale, c'est comme ça qu'on voit les choses chez Groupama. Groupama. La vraie vie s'assure ici.
Info sur groupamapro.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
Épargnez-vous les frayeurs sur la route cet automne. Avec de nouveaux pneus et .S, ce ne sera pas sorcier.
Jusqu'au 14 novembre, .S offre jusqu'à 100€ pour l'achat de pneus Bridgestone en 18 pouces et plus.
Pas de stress, il y a .S.
Voir conditions sur .S.fr.
Marc est paysagiste et les nouvelles commandes poussent comme des champignons.
Allô, Marc Paysage ? Je regrette, madame, mes deux équipes sont déjà mobilisées. Je peux vous proposer samedi ?
Il est temps d'embaucher.
J'ai besoin d'Indeed.
Indeed vous propose des profils de qualité adaptés à vos besoins afin que vous puissiez choisir le candidat qui correspond le mieux à votre entreprise. Découvrez pourquoi plus de 150 000 entreprises en France utilisent Indeed. Rendez-vous sur indeed.com/offre et profitez de 100€ offerts pour votre première offre d'emploi. Offre soumise à condition.
C'est le magazine des déchaînés du football en direct, 19h26. On parle Ligue 1 ce soir dans cette première heure entre 19h et 20h. Après Brest, c'est au tour de Lorient.
Oui, avec Quentin Boigard qui sera avec nous dans un tout petit instant. Une victoire 3-1 des Merlus sur la pelouse de Reims. Ça avait pourtant mal démarré hein, pour les Rémois, pour les Lorientais qui étaient menés 1-0 par Reims à la mi-temps. Un but de Moreto Kassama à la 23e minute de jeu. Et puis en deuxième mi-temps, tout a basculé avec 3 buts Lorientais. L'un de Pierre Ivamel, l'autre de Johan Wissa sur pénalty et le dernier de la recrue Terem Moffi. Reims qui a même terminé la rencontre à 9 contre 11 suite aux expulsions de Moreto Kassama et en toute fin de match d'Anastasios Donis. Pour revenir sur ce match avec nous, l'un des titulaires de cette victoire, c'est Quentin Boigard. Bonsoir Quentin.
Bonsoir.
Alors, deuxième victoire cette saison, après celle contre Strasbourg lors de la première journée. Comment vous avez accueilli justement ce succès que vous attendiez depuis près de deux mois maintenant ?
Ça fait toujours du bien de gagner. On attendait cette victoire avec impatience. On savait que ça allait tourner en notre faveur à un moment donné. On a tout fait pour revenir au score. Comme vous l'avez dit précédemment, on était mené au score. Donc, on a tout fait pour revenir au score. Et puis, on a su inverser la tendance en inscrivant trois buts en seconde mi-temps.
Alors, comment vous sentez-vous à la mi-temps quand Reims mène 1-0, que vous êtes pas mal en point, mais que c'est plutôt équilibré, mais que surtout que vous n'avez pas d'occasion? Comment vous vous sentez à ce moment-là, au moment de regagner les vestiaires?
On était serein, on était confiant. Après, ils ont eu une seule occasion dans le match, ils n'ont pas été dangereux. En première mi-temps, c'était assez serré des deux côtés. On a su rester en place, on n'a pas paniqué. Le coach a eu un discours positif à la mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, on savait ce qu'on devait faire. Puis c'est pour ça qu'on a réussi à revenir au score. Dans son discours, nous dit qu'on faisait de bonnes choses. On était bien structurés défensivement et offensivement. Et voilà quoi.
Oui, parce qu'on a senti que vous étiez complètement libéré en seconde période, où offensivement, là, c'était le football champagne presque, sans vouloir chambrer les Rémois de Champagne Ardenne, bien sûr, mais il y avait énormément d'occasions, et c'est arrivé très vite, ces occasions en deuxième mi-temps, et elles ont été concrétisées aussi très vite.
On arrivait en deuxième mi-temps avec beaucoup d'envie et de conviction. On l'avait en première mi-temps aussi, mais c'est vrai que sur la première mi-temps, le but nous fait mal. Mais on n'a pas baissé les bras, et sur la deuxième mi-temps, on a tout donné, on a tout lâché. Et voilà, cette fois-ci, c'était pour nous. Et on a tout fait pour réussir à gagner ce match. Les remplaçants ont fait une bonne rentrée aussi, ils ont fait du bien, ils ont apporté offensivement et défensivement. Et c'est ça qui a fait la diff.
À quel point, justement, Quentin, c'était important de gagner ce match avant de recevoir Marseille, puis de se déplacer à Dijon, qui est mal en point dans ce début de saison?
C'était important pour la confiance d'abord, parce que sur les derniers matchs qu'on fait, on fait pas des mauvais matchs. On est une équipe qui essaye de jouer, donc il fallait que ça paye à un moment donné. C'est vrai que on était sur des défaites, des matchs nuls. C'est la deuxième victoire en sept matchs, et on avait besoin de ça pour avant de recevoir Marseille. J'espère qu'on va garder sur cette lancée. Faire un bon résultat contre Marseille, ce serait bien avant d'aller à Dijon.
Alors justement, grâce à ce résultat, vous devez être un peu plus serein avant.
Allô.
Je crois qu'on a perdu. On a perdu, je crois, Gaëtan, qui est en direct du Roudourou au stade du Roudourou. Gaëtan, vous nous recevez? Pas de Gaëtan. J'ai l'impression que non. Bon, aïe. Allez. Je crois qu'on devrait pouvoir retrouver Gaëtan. En tout cas, on s'agite pour récupérer Gaëtan. Gaëtan, vous êtes...
Nous, voilà. On est là. Ça y est, il y a eu une petite coupure, on est là.
Bon, une coupure de ligne numériste, ça arrive.
Oui, justement, je demandais à Quentin, qui lui n'a pas eu de coupure de son côté. Vous devez être plus serein avant d'affronter Marseille, après cette victoire aussi, parce que Marseille, ça reste quand même un gros du championnat, et ça devait être peut-être crispant, enfin ça aurait été crispant de recevoir Marseille sans avoir gagné à Reims ce week-end.
Oui, pas forcément. Après, quand les grosses équipes, la motivation est toujours plus élevée. Après, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir fait ce résultat à Reims par Marseille. Je pense que pour nous, pour le staff, on va entamer ce match avec beaucoup de confiance. On est à domicile, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On va tout faire pour faire un bon résultat ce week-end.
Alors, plus personnellement, on vous a vu jouer à gauche, à droite et en soutien de l'attaquant dans cette animation offensive du FC Lorient depuis le début de la saison. À quelle place êtes-vous le plus à l'aise dans cet effectif du FC Lorient?
Sincèrement, moi, je suis à disposition du coach. Moi, je joue là où le coach veut me faire jouer. Après, je suis plus à l'aise dans le cœur du jeu ou à gauche. Et ça me déplaît pas de jouer à droite non plus. Mais mes postes préférentiels, ce serait plutôt 10. Et le coach m'utilise comme ça, et ça me va très bien.
Alors Quentin, Pierre qui est avec nous a également une question pour vous.
Oui, bonsoir Quentin. J'ai une question aussi sur le domaine personnel. Vous qui étiez à Toulouse l'année dernière, comment vous êtes-vous acclimaté au temps breton, au climat breton en Bretagne Sud? Est-ce que ça vous a surpris ou comment vous avez accueilli ça?
Il n'y a aucune surprise. Le temps est comme à Toulouse, hein. Sincèrement, il fait beau en Bretagne en ce moment. C'est limite plus bon ici qu'à Toulouse, vous voyez. Je suis un peu étonné, on m'avait dit qu'il pleuvait en Bretagne, mais ce n'est pas ce que je vois en fait.
Eh bien, on a enregistré cette réponse, Quentin, et on la passera à tous ceux qui nous diront que le temps est maussade en Bretagne. Merci infiniment.
Ben merci beaucoup, Quentin Boigard, d'avoir été avec nous ce soir après cette belle victoire donc, sur la pelouse de Reims. Merci beaucoup et bonne soirée, Quentin.
Bonsoir.
Merci à vous, bonne soirée.
Bonsoir.
Merci. Bonsoir.
Mais victoire. Oui, bah continuez.
Donc, oui, mais victoire donc des Merlus 3 buts à 1 sur la pelouse du stade Auguste Delaune à Reims. Et samedi, une victoire qui fait évidemment beaucoup de bien parce qu'on l'a dit, Lorient n'avait plus gagné depuis la première journée. 5 matchs sans victoire et puis 4 défaites sur cette série de 5 matchs. C'est ça aussi qui était un petit peu inquiétant ces derniers pour eux. Pour les Merlus, mais Christophe Pélissier, lui, sort évidemment convaincu de ce match à Reims. Et surtout, il a peut-être trouvé la naissance d'un groupe suite à cette victoire.
Il mène au score. Ce que je dis à la mi-temps, c'est qu'il faut continuer à aller de l'avant. On avait adapté un système aujourd'hui avec un 4-4-2 avec deux attaquants, avec des joueurs offensifs. Et je leur disais qu'il fallait continuer dans cette voie, que ça allait finir par payer. Donc... Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que l'équipe, malgré ce but encaissé, ne s'est pas désunie et on a montré la force d'un groupe, c'est ce qu'on doit montrer. Et comme je disais, c'est le début ce soir d'un groupe qui naît petit à petit. On a vu aussi l'apport des recrues qui a été importante.
Oui, le tout est de savoir si Lorient va enchaîner maintenant.
Exactement, c'est un petit peu la question après le match nul contre Lyon, un but partout qui était porteur d'espoir, en tout cas défensivement. On s'attendait à ce que Lorient confirme sur la pelouse de Metz une semaine plus tard. Finalement, ça avait été une déroute 3-1 à Metz. Il y a cette victoire maintenant contre Reims, reste à confirmer effectivement contre l'Olympique de Marseille, puis éventuellement, si possible, en tout cas à Dijon la semaine suivante, qui sera un match là aussi couperet pour essayer de se dégager au plus de ce bas de tableau. En attendant, Christophe Pélissier lui aussi retient que dans le jeu, ils ont retrouvé un petit peu leur âme, les Merlus, qu'ils avaient perdu notamment à Metz le match précédent, mais aussi contre Lens, notamment en début de saison, on se rappelle. Une ambition de jeu retrouvée, c'est ce que retient l'entraîneur des Merlus.
Je trouve que ce match ressemble un peu à notre premier match contre Strasbourg, avec un peu le même scénario, c'est-à-dire que Strasbourg a ouvert le score, derrière on a renversé, on a gagné 3-1. Je crois que ce soir c'est un peu la même chose, c'est ce que je leur avais dit sur cette semaine internationale. J'avais dit que je voulais revoir l'équipe de Strasbourg, c'est-à-dire une équipe qui avance, qui peut être menée au score. Ça avait été le cas de Strasbourg, c'est le cas ce soir, mais on arrive à renverser la vapeur parce qu'il y a de la qualité quand même dans cette équipe-là. Et je trouve que par rapport aux résultats qu'il y avait, étaient logiques parce qu'on ne montrait pas la qualité qu'on devait montrer. Donc voilà, le contenu, je parle souvent d'ambition de jeu. Ce soir, ça m'a plu.
Mais alors, mon petit Gaëtan, est-ce que ce renouveau, ce visage un peu plus audacieux, n'est pas non plus dû au fait que Pélissier a abandonné son schéma à 5 défenseurs?
C'est possible, sauf que la défense à 4 qui a été alignée là avait aussi été alignée. Alors, c'était pas tout à fait les mêmes joueurs, surtout Gravillon qui n'était pas là, mais cette défense à 4 avait été alignée à Brest, elle avait pris 3 buts, contre Lens, elle avait pris 3 buts, à Saint-Etienne, 2. Bon, effectivement, peut-être que la façon de repasser à 4 derrière, là où elle a apporté, c'est offensivement. Elle a permis à Lorient de s'exprimer offensivement en abandonnant un défenseur. Par contre, défensivement, bon, on ne peut pas trop savoir s'il y a encore des garanties supplémentaires parce que l'attaque rémoise n'était pas non plus celle que pourra peut-être proposer Marseille samedi ou d'autres équipes lors des semaines suivantes. Mais en tout cas, c'est vrai que dans l'animation offensive, ce retour à 4 derrière, eh bien, a forcément aidé le Football Club de Lorient à retrouver un petit peu ses repères à ce niveau-là. Des repères aussi trouvés grâce aux recrues. Aux recrues, on a parlé d'Andrew Gravillon derrière, Trevo Chalobah au milieu et Terem Moffi devant, qui a marqué, qui a obtenu aussi un penalty pour son premier match. Donc après, pourtant, une première période un petit peu délicate. Et vous allez voir que juste avant qu'il marque, Terem Moffi, Christophe Pelissier a failli procéder à un choix qui aurait peut-être pu laisser un peu plus de suspense dans le match. On écoute Christophe Pelissier qui est satisfait de ses recrues.
Aujourd'hui, j'avais décidé de les lancer alors qu'ils ne sont pas à 100% de leurs possibilités. Hein. Terem a repris la saison il y a 15 jours. J'avais peur d'ailleurs à la fin qu'il se blesse, j'allais le sortir avant qu'il marque. Trevo aussi par rapport à son genou. En gros, les trois ne sont pas à 100%.
Oui, les Merlus qui ont donc, avec leur recrue, eh bien, pu s'imposer à Reims, alors que, vous l'avez entendu, Terem Moffi a failli sortir. Et voilà, on s'attend encore à ce que ces recrues montent en puissance au fil des matchs, au fur et à mesure qu'elles trouveront leur repère un peu plus aussi au sein de ce collectif des Merlus. Une petite page de pub peut-être, Dominique ?
Oui, pas de souci.
Et puis on revient dans la foulée pour continuer cet épisode sur le FC Lorient. À tout de suite.
Pendant le confinement de ce printemps, les prêtres aussi ont pu disposer d'un peu de temps supplémentaire. Ce moment en particulier a été mis à profit par le Pérouzé de Pléneuf-Val-André pour réaliser un mini-évangile illustré par 48 superbes gouaches inédites d'un ami peintre. Un petit ouvrage facile à lire et à comprendre, un magnifique cadeau aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. Avec ce mini-évangile, les papas, les mamans ou même les grands-parents pourront facilement expliquer la vie de Jésus à leurs enfants ou petits-enfants.
Le 13 août 1987, après avoir célébré la messe aux côtés du pape dans sa chapelle privée de Castel Gandolfo en Italie, Jean-Paul II me demanda d'aider les familles à prier dans les églises domestiques que sont leurs maisons, afin de se rapprocher de Jésus. Ce petit ouvrage, si bien illustré par Philippe Pelletier, est dans ce sens une aide précieuse pour toutes les familles et un excellent cadeau à faire.
Le mini-évangile du Pérouzé est vendu 12 euros l'exemplaire, frais de port inclus, ou 10 euros sur place à Pléneuf-Val-André. Renseignements et commandes au 09 66 01 24 68. 09 66 01 24 68. Vous pouvez laisser un message en cas d'absence.
Le magazine des déchaînés du football, 19h40, on est en direct avec Gaëtan et avec Pierre du stade du Roux-de-Roux à Guingamp ce soir pour ce magazine, car on enchaînera avec le match de l'En Avant Guingamp tout à l'heure à 20h45 avec la réception d'Auxerre pour cette dernière rencontre de la 7e journée, je crois, du championnat de Ligue 2, c'est ça, hein, 7e journée.
Oui, 7e journée, exactement. 7e journée entre Guingamp et Auxerre, peut-être donc un deuxième bon résultat pour les clubs que nous suivons, après donc la victoire des Merlus. Lorient, on le rappelle, qui s'est imposé à Reims 3-1. Tout était mal embarqué puisque Reims menait à la mi-temps, mais Lorient a renversé la situation en deuxième période. Ça a nécessité d'être patient parce que la première période, il y a eu très peu d'occasions du côté de Lorient. Il n'y en avait pas beaucoup non plus, il faut le dire, du côté de Reims, mais il y en a eu une qui est allée au fond. Il a fallu donc faire preuve de patience, notamment pour les joueurs offensifs que sont Terem Moffi, la recrue, mais aussi Pierre-Yves Hamel, qui a marqué le but de l'égalisation. On écoute Pierre-Yves Hamel qui revient justement sur ce fait d'avoir dû attendre un petit peu et de trouver ses marques pour marquer.
Je pense qu'en tout cas sur ce début de saison, c'est un match référence sur ce qu'on a pu faire, surtout que, comme j'ai pu le dire, à l'extérieur on était plutôt en difficulté, donc être capable de faire cette performance à l'extérieur, ça prouve qu'on peut avoir la qualité.
Ouais, surtout contre un adversaire, hein, contre un concurrent direct pour le, oui, pour le maintien, c'est super important pour Lorient, c'est vraiment le match qu'il fallait gagner là.
Tout à fait, tout à fait. Il parle même de match référence, Pierre-Yves Hamel, c'est assez fort comme mot. Alors, je parlerai surtout peut-être de deuxième mi-temps référence, parce que la première période,
oui,
elle était quand même assez mitigée.
C'était pauvre.
Voilà, c'était assez mitigé. Hein. Ouais. Bon, Lorient ne concédait pas grand-chose,
oui, mais n'avait pas d'occasion.
N'avait pas non plus d'occasion, n'avait pas grand-chose, ouais, offensivement. Donc, c'est surtout la deuxième mi-temps qui a été référence.
On est méchant, il y a eu les 3-4 dernières minutes où Lorient a commencé à montrer un autre visage. Mais pendant plus de 40 minutes, quand même, on s'est ennuyé ferme hein, du côté de l'attaque des Merlus.
Ça ressemble un peu au match de Strasbourg. Vous en parliez tout à l'heure, le scénario de Strasbourg où Lorient est très timide en première période et concède un but de manière pas illogique. Et puis, cette furia, parce que il marque 3 buts, mais on les sent venir parce qu'il y a le but refusé.
Exactement,
à
Julien Laporte pour une position de hors-jeu de Quentin Boigard au départ. Sur le centre, on aurait dû lui dire. mais c'est vrai, Christophe Pélissier l'a d'ailleurs souligné en conférence de presse. Enfin, il l'a évoqué en disant qu'effectivement, ça ressemblait au match contre Strasbourg parce que la première journée, et donc la seule victoire avant celle de ce week-end, Lorient était mené aussi 1-0 à la mi-temps avant de marquer 3 buts en deuxième pour s'imposer 3-1. Au niveau du scénario des buts, c'était identique. Et au niveau du contenu du match aussi, c'était un peu la même chose parce que la première mi-temps contre Strasbourg, elle ressemblait finalement à celle qu'a proposé Lorient à Reims, et la deuxième également, une deuxième beaucoup plus folle avec beaucoup d'occasions, beaucoup de buts donc, et une victoire à l'arrivée, 3-1 pour des Merlus qui donc au classement se donne de l'air, non pas en termes de place mais en termes de points, puisqu'il reste 17e les Merlus, mais compte désormais 7 unités et donc 4 de plus que Strasbourg le barragiste, et 5 de plus que les deux derniers.
Ouais, on espère que les clubs bretons pourront se liguer le week-end prochain parce que justement Strasbourg se déplacera, on l'a dit tout à l'heure, à Brest dimanche prochain, dimanche 25 octobre, pendant que Lorient recevra Marseille, match à domicile aussi important hein, pour confirmer pour Lorient ne pas perdre, surtout à domicile. Le prochain match pour les Merlus, c'est l'objectif certainement.
Exactement, ce sera samedi à 17h. Comme le disait Quentin Boigard il y a un petit instant, on est forcément plus motivé, inconsciemment en tout cas, quand on joue des grosses équipes aussi. C'est le cas de Marseille dans ce championnat de Ligue 1, et donc il va y avoir cette envie évidemment de confirmer ce bon résultat obtenu sur la pelouse de Reims. Ça, c'était pour la Ligue 1. Avant de passer à la Ligue 2 avec l'en avant Guingamp tout à l'heure contre la JOCR, eh bien il y avait de la Coupe de France ce week-end, de la Coupe de France avec des surprises, notamment dans les Côtes d'Armor, Pierre.
Mais Saint-Brieuc s'est qualifié, c'est le plus important. Saint-Brieuc s'est qualifié, bon, ça va.
Oui, 1-0. Bah, c'était l'un des matchs les plus difficiles, quand même, parmi les équipes que l'on suit régulièrement sur Radio Bonheur à Fougères. Victoire 1-0 de l'équipe de Saint-Brieuc, avec la première d'un certain Christophe Carbrad, qui était titulaire, lui qui était notre invité la semaine dernière sur Radio Bonheur. But de Romil à la 47e. Romil qui venait de remplacer Blondel, d'ailleurs, à la pause. Saint-Brieuc qui a gagné à Fougères, club de N2. M3 pardon, donc deux niveaux en dessous. Voilà, c'est passé. Il y a eu d'autres matchs aussi qui ont été serrés. Lannion-Vannes par exemple, Lannion N3 contre Vannes N2, match nul, un but partout, but de Henry pour Vannes à la 33e, égalisation de Vido sur pénalty à la 87e. Hélas, les tirs au but n'ont pas souri à Lannion, victoire de Vannes au tir au but, 4-2. On déroulera les autres résultats un petit peu plus tard parce qu'on va s'intéresser aux surprises de cette compétition. On aura peut-être la Montagnarde un petit peu plus tard.
Oui, on les aura après le prochain écran.
On passe aux résultats du coup, effectivement, avec une équipe pour qui ça s'est très bien passé, c'est Saint-Malo, qui jouait contre l'Indépendante de Moron, club de D1 District, qui avait énormément de niveaux d'écart, N3, R1, R2, R3, il y avait 5 niveaux d'écart entre Moron et Saint-Malo. Victoire 9-0 des Malouins, avec un triplé de Goba, un quadruplé de Clément, un but d'Amel et un but de Paolo pour l'équipe de Saint-Malo. Ça s'est bien passé aussi pour Plouzané. Là, il n'y avait qu'un seul niveau d'écart, mais ça a cartonné pour Plouzané contre Séné. Victoire 6-0, doublé de Fernandez et de Nji, but de Swali. Et Ranou Loudéac a lourdement chuté à domicile dans un choc entre clubs de R1 contre Guichin, défaite 4-1. Guichin avait ouvert le score par Jalk à la 18e, égalisation de Skeuil 3 minutes plus tard, et ensuite festival en seconde période de Guichin, Jalk pour le doublé, Ferrier et Mbok qui ont permis donc à Guichin de se qualifier. Ça passe aussi pour Jinglin-Cesson, le club de Saint-Brieuc qui a gagné à Bru 1-0. Il y avait deux niveaux d'écart en faveur de Jinglin-Cesson. C'est Maniza, Lokoma Maniza, qui a marqué à la 72e pour les Briochins. Pas de soucis non plus pour Dinan-Léon, club de N3, qui a battu Saint-Aubin, club de R3, 4-0. Tout était plié quasiment en une demi-heure. Touré 26e, Lefebvre 30e et Vermet 32e. 3 buts en 6 minutes pour les Dinanais. Ensuite, Lefebvre y est allé de son doublé sur penalty pour donc un score final de 4-0. Défaite par contre dans le 22 de Planquette, club de R2 qui a perdu à Cesson, club de R1, 2-1. Ouverture du score sur penalty de Michel pour Cesson, égalisation dans le temps additionnel de la première période de Bouan pour Planquette, mais dans le temps additionnel de la seconde période, Michel a marqué un doublé pour permettre à Cesson de s'imposer sur le score de 2-1, mon petit Gaëtan.
Et défaite de nos amis de la S Tagarine que nous avions avec nous la semaine dernière sur Radio Bonheur, défaite 6-0 contre Lamballe. Là, évidemment, c'était beaucoup plus
niveau
difficile.
Lamballe aussi,
qui est en R1. Hein. Ouais, il y a 6 divisions d'écart.
Ouais.
Défaite 6-0. Diarra a marqué au 22e, 43e. Blanchet doublé aussi au 45e, plus 2 et 86e. But de Bouénard sur pénalty à la 48e et de Blin à la 59e. Large défaite donc de la S Tagarine, mais qui a réalisé un très joli parcours dans cette Coupe de France 2020-2021. Et à noter aussi la qualification de Bégard pour le 6e tour, club de R1, qui a gagné à Cléguer dans le 29, Cléguer, non 56, 8-1, un carton pour Bégard, avec un triplé notamment de Le Garlantézec, un triplé aussi de Guasdoué, des buts de Normand et d'André donc, pour cette victoire, 8-1 dans le 29, victoire aussi de Plabennec, club de National 2 qui a éliminé Beau, club de R3 5-1, Beau qui avait sorti le Stade Pontivien il y a de cela deux tours, mais qui cette fois n'a pas résisté à Plabennec, but de Pellen, Guillou, Berthier contre son camp et un doublé de Gerbeau pour les Finistériens et un but de Repère pour Beau. Qualification également de la Saint-Pierre de Milizac à Ploudalmézeau, 0-0, mais victoire 5 tirs au but à 4. Et puis je crois qu'on a un petit peu tout avant d'avoir nos surprises donc,
oui,
qu'on disait, et notamment celle de la Montagnarde d'Inzinzac Locrist qui a éliminé l'US Concarneau, score final 0-0, mais victoire au tir au but, 4 tirs au but à 2. Ouais, est-ce que scénario,
on l'avait dit la semaine dernière, qu'il y avait souvent des surprises pour la Montagnarde, des bonnes surprises pour la Montagnarde. C'est un habitué de la Coupe de France, ce club, oui, se retrouve même parfois en 32e voire en 16e de finale de Coupe de France assez régulièrement, enfin de temps en temps. C'est ce qui est incroyable vu le niveau d'un Zinzac Locrist.
Exactement, Régional 1, un Zinzac Locrist, donc la 6e division. Et justement, après l'écran publicitaire, nous aurons avec nous Mathéo Petit-Genet, gardien de l'US Montagnarde, ancien de Concarneau d'ailleurs, et qui, vous allez le voir ou l'entendre plutôt, et bien a réalisé des prouesses et des exploits dans ce match face à ses anciens coéquipiers. Une petite page de pub à nouveau, et puis on revient avec Mathéo Petit-Genet. À tout de suite.
100% Business Affaires. Accompagner les entrepreneurs dans la prévention des risques, c'est important pour Generali. Pour en parler, j'appelle Philippe Huguetto, président de Fragrance Foundation France, qui rassemble plus de 50 entreprises et artisans du parfum, donc une grande partie de la filière. Alors Philippe, en quoi ces entreprises s'engagent-elles ?
Alors ces entreprises s'engagent pour l'excellence des savoir-faire made in France, mais aussi, quelque chose de moins connu, elles participent à la réduction des impacts environnementaux, l'eau, les déchets, les emballages, et à la préservation des essences naturelles entrant dans la composition des parfums.
Merci Philippe. Nicolas Paoli, vous êtes assureur, agent du groupe Generali, et à l'origine du partenariat avec Fragrance Foundation France. Qu'est-ce qui vous a motivé ?
Notre principale source de motivation, avant tout, est d'encourager les comportements responsables, car c'est aussi mieux maîtriser ses risques. D'autre part, ça fait plus de 20 ans au sein du groupe Generali que nous sommes actifs sur ces sujets environnementaux, car bien évidemment, ces grands enjeux sociétaux nous concernent tous.
Eh bien, merci beaucoup messieurs.
Business Affaires. Plus d'infos sur generali.fr.
Épargnez-vous les frayeurs sur la route cet automne. Avec de nouveaux pneus et Point S, ce ne sera pas sorcier.
Jusqu'au 14 novembre, Point S offre jusqu'à 100 euros pour l'achat de pneus Bridgestone en 18 pouces et plus.
Pas de stress, il y a Point S.
Voir conditions sur points.fr.
Et si on faisait le plein de gigas sur mobile et tablette?
Moi, avec les nouveaux forfaits Orange, j'ai un max de gigas.
Et moi, mes gigas, je les utilise sur mobile et sur tablette avec mes deux cartes SIM.
Ouais, mais moi, ils sont compatibles 5G. Je suis prête pour le futur.
Ouais, bah tu me diras comment c'est.
Des gigas à gogo sur vos équipements avec les nouveaux forfaits Orange compatibles 5G. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 18 novembre. Engagement 12 mois, forfait compatible avec le réseau 5G d'Orange à partir de décembre 2020 dans les zones déployées. Conditions et couverture sur orange.fr.
Quand j'ai dit Just Eat, Just Eat, resté un peu timide. Just Eat, Just Eat, j'ai dit à zéro frais de livraison, c'est frais. Tu m'as dit si y'a pas de frais. Just Eat, je voudrais d'exquis sushi. Just Eat, et on s'est fait un Just Eat, ouais.
On s'est fait un Just Eat.
Chaud pour un Just Eat, c'est zéro frais de livraison dans plus de 8000 restaurants. Qu'est-ce qu'on attend? Téléchargez l'appli.
Did somebody say Just Eat?
Pour votre santé, bougez plus.
Chute de cheveux, manque de volume, cheveux fragilisés? Innovation Manaïcap Expert, une formule unique associant levure de bière, kératine et collagène. Manaïcap Expert est la solution complète pour la beauté et la santé de vos cheveux. Retrouvez Manaé en pharmacie. Manaé, une marque VitaVea. Pour votre santé, évitez de grignoter.
On retrouve Soyons Proactifs avec Cerise de Groupama.
Ça y est Bertrand, vous êtes devenu auto-entrepreneur?
Eh oui Cerise, c'est fait. Pas de salarié, pas de local, c'est sans risque.
Et si vous avez un litige avec un client?
Eh ben je...
Dès 10 euros par mois, avec l'assurance Groupama pour les micro-entrepreneurs, vous êtes couvert si vous êtes mis en cause et bénéficiez de l'aide de nos juristes.
Ah mais c'est bien ça!
Vous soutenir, vous et tous ceux qui participent à la relance de l'économie locale, c'est comme ça qu'on voit les choses chez Groupama. Groupama. La vraie vie s'assure ici.
Info sur groupamapro.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat.
C'est tout vu, c'est Vulco.
Je dois changer mes pneus. Tu connais un spécialiste?
Moi, je vais chez Vulco. Ils remboursent jusqu'à 120 euros par virement bancaire pour l'achat de pneus Goodyear ou Dunlop.
Ah oui, quand même, jusqu'à 120 euros. Ça fait une bonne raison de venir chez Vulco.
Et d'y revenir, parce que chez Vulco, c'est aussi des spécialistes de l'entretien auto.
Merci pour le bon plan. En plus, j'ai un Vulco à côté de chez moi. Je file.
Offre soumise à condition, valable jusqu'au 21 novembre prochain dans les centres participants. Détails sur vulco.com.
Pneus et entretien auto, c'est tout vu, c'est Vulco.
C'est le magazine des déchaînés du football en direct, comme tous les lundis soirs de 19h à 20h30. Gaëtan et Pierre sont avec nous en direct.
Oui.
Du Roudourou pour ce magazine.
Oui, et juste avant de revenir à la Coupe de France, on va s'intéresser à l'actualité chaude, parce qu'on vient d'avoir la composition de Guingamp, et si on chamboule tous nos plans du magazine, c'est parce que c'est une composition assez étonnante, puisque dans le but... Exit Nicolas Larsen, c'est Enzo Basilio, la doublure, qui va être titulaire.
Qu'est-ce qui se passe
ce soir? Larsen ne donne quand même pas toutes les garanties depuis le début de saison, on y reviendra tout à l'heure. En défense, nous aurons à gauche Pedro Rebocho, à droite Jérémy Melo, et dans l'axe de la défense, Jérémy Sorbon et le retour de Sampaio. Au milieu de terrain, première titularisation également de Baptiste Roux, le jeune joueur formé au club qui sera aux côtés de Alexis Romao à la récupération. Ensuite, une ligne de 3 avec la première de Gaëtan Robaille qui devrait se situer sur le côté gauche, le joueur prêté par Lens. À droite, on aura Brian Pelé. Dans l'axe, le retour en tant que titulaire de Ronny Rodelin en soutien de Yannick Gomis. Voilà donc le 11 assez surprenant de Mecha Bazdarevic.
Ouais, ça fait énormément de changements dans cette équipe de Guingamp. On verra ce que ça donne tout à l'heure, match à 20h45 en direct sur Radio Bonheur.
Il y a 6 joueurs qui ont changé, je crois, de mémoire.
Plus de la moitié.
6 joueurs nouveaux
même
par rapport
même le
au
gardien.
Dernier match.
Ouais, c'est fou. Hein. Réception d'Auxerre tout à l'heure en direct sur Radio Bonheur. Monsieur Mathéo Petit-Genet est avec nous en direct par téléphone.
Bonsoir Mathéo.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors on revient sur cet exploit, Mathéo, de la Montagnarde face à Concarneau, votre ancien club que vous avez donc battu samedi lors du 5e tour de la Coupe de France. 0-0, mais une victoire, 4 tirs au but à 2. Sacré exploit que d'éliminer cette équipe de Concarneau qui, on le rappelle, évolue 3 divisions au-dessus de vous en national.
Ouais, c'est sûr, hein, c'est un exploit. Hein. De toute façon, avec le coach et l'équipe, on savait qu'il fallait faire un exploit, donc... On s'était préparé pour ça, mentalement et sur le terrain, donc on l'a réussi, donc tant mieux pour nous.
Alors depuis 2010, la Montagnarde a toujours été au 5e tour de cette coupe au minimum. Est-ce que vous sentez, vous qui êtes arrivé au club cette année, cet attrait pour la Coupe de France au sein du club de la Montagnarde?
Ah bah c'est sûr, hein. Toute la semaine on nous a rappelé que la montagne c'est connu pour ses parcours. Donc forcément, nous aussi, on avait aussi un peu envie de marquer l'histoire du club. Donc c'est ce qu'on est en train de faire et on va essayer d'aller le plus loin possible dans cette coupe. Hein.
Alors ce qui est assez cocasse ou ce qui est à souligner dans ce match, c'est que vous êtes le gardien, on le rappelle, de cette équipe de la montagne. Vous étiez lors des deux précédentes saisons à Concarneau. Vous avez arrêté un tir au but de votre ancien partenaire Thibaut Cinquin et puis vous avez marqué le tir au but vainqueur, alors que je crois que c'était pas forcément prévu que vous frappiez dans cette séance au départ.
Non, c'était pas prévu, même si quand le coach il a demandé qui voulait tirer, moi j'étais le premier à lever la main parce que ça me dérange pas du tout de tirer un pénalty. Mais il voulait pas me mettre. Et depuis le début de la semaine, je disais au gars, vous verrez, on va aller au pénalty, je vais arrêter le cinquième pénalty et je vais marquer derrière. Et quand j'ai arrêté le pénalty, je suis parti direct voir mon capitaine, Luca Tison, qui je lui ai dit, laisse-le-moi, il m'a dit, t'es sûr, j'ai fait moi confiance, je vais la mettre et tout. Et c'est ce que j'ai fait, je suis content, quoi. Parce que c'était un peu une revanche personnelle, parce que je n'ai jamais eu trop ma chance à Concarneau, donc c'était un peu une revanche personnelle, ouais. C'est clair.
Mathéo, est-ce que vous avez les numéros du prochain Euro Million, s'il vous plaît?
Non.
Parce que si vous aviez tout prévu avant, j'aimerais bien savoir 2-3 trucs, c'est possible, non?
Non, mais je sais pas, c'est venu comme ça. Écoute, quand tu veux tellement quelque chose et tu fais tout pour que ça arrive, ça vient. Hein. Je sais pas. Non.
Quelle saveur, Mathéo, a donc cette qualification, vous qui étiez à Concarneau, on le rappelle, lors des deux précédentes saisons, gagner contre votre ancien club, ça a une saveur un petit peu particulière quand même.
Ah bah c'est clair. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça dans le football. J'étais tellement heureux pour le club de la montagne, pour tous mes potes. Et puis battre Concarneau, son ancien club, ouais, c'est sûr que ça fait plaisir. Comme je vous dis, c'est une revanche. C'est une revanche pour moi.
Alors vous avez réconforté après vos copains Tonnier après le match?
Ouais, on a discuté un petit peu, mais même eux ont dit on n'a pas fait le match qu'il fallait. Même sur l'ensemble du match, vous avez été meilleurs. Ils reconnaissaient tout simplement qu'on avait fait un meilleur match que samedi, quoi.
Et alors quel tirage vous espérez maintenant? C'est la question un petit peu traditionnelle après chaque qualification. Quel tirage vous espérez pour le sixième tour de cette Coupe de France?
Bah franchement, moi, peu importe, hein, de toute façon, tu dois battre tout le monde. Hein, peu importe que ce soit une plus petite équipe ou du même niveau au-dessus, si tu veux aller loin, faut gagner. Donc peu importe le tirage. De toute façon, moi j'ai dit, quand j'ai signé à la montagne, que l'objectif c'était d'aller au Moustoir. Donc l'objectif c'est d'avoir les clubs pro qui rentrent en liste. Donc c'est de gagner jusqu'à ce que les clubs pro arrivent, quoi.
Vous avez connu Enzo Basilio à Concarneau, vous étiez sa doublure. Vous avez sans doute entendu qu'il était titulaire aujourd'hui pour la première fois en Ligue 2 avec Guingamp. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre ancien copain dans un but en Ligue 2 maintenant?
Bah, franchement, je suis content pour lui. Il a fait le choix de quitter Concarneau pour aller à Guingamp en tant que numéro 2 en disant que tôt ou tard il aurait sa chance. Il a travaillé et le coach qui est titulaire, donc c'est bien, je suis content pour lui. Et maintenant, il faut qu'il fasse son match pour qu'il reste le plus longtemps possible titulaire.
Pour les supporters guingampais qui vont peut-être le découvrir ce soir, quelles sont ses principales qualités?
Ah bah, je peux vous dire que sur sa ligne, c'est un monstre. C'est un monstre. Un très très un monstre et il a un sacré pied gauche aussi.
Eh bien, on va voir ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Mathéo Petitjean, d'avoir répondu à cette interview ce soir. Bravo aussi encore pour la qualification face à Concarneau. Et puis, on se retrouvera peut-être pour le prochain tour, si qualif, il y a encore pour le 7e tour.
Ça marche.
Merci. Bonne soirée.
Merci, bonsoir.
Voilà, la Montagnarde, c'est le club d'Inzinzac-Locrist, on le rappelle, dans le département du Morbihan. Radio Bonheur, il est 20h, on va se quitter pendant quelques instants, pendant 2-3 minutes, le temps de retrouver notamment les informations de 20h, la suite après les infos et quelques messages pour le magazine des déchaînés du football, et ensuite pour la 7e journée du championnat de Ligue 2. Restez avec nous toute la soirée à 20h45, Guingamp reçoit Auxerre. Radio Bonheur, 20h et 1 minute.
Bonsoir à tous. L'hommage national à Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie assassiné vendredi par décapitation dans les Yvelines, aura bien lieu dans la cour de l'université de la Sorbonne. C'est ce qu'a confirmé l'Élysée. Elle aura lieu mercredi. Une marche blanche mardi soir à Conflans-Sainte-Honorine. Cette marche blanche en hommage à Samuel Paty sera organisée à Conflans. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la mairie de la ville dans laquelle il enseignait. Cette marche, qui commencera à 18h30, se tiendra entre son collège de Bois d'Aulne et la place de la Liberté, selon le communiqué de la mairie. 5 nouvelles personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'attaque, parmi lesquelles 4 collégiens, alors qu'un autre élève a été relâché. Parmi ces gardés à vue, on trouve aussi une personne qui a déjà été condamnée pour des faits de terrorisme et qui déclare spontanément avoir été en lien avec l'auteur quelque temps avant les faits. C'est ce que précise une source judiciaire. Le Premier ministre Jean Castex fustige un acte contre la République. Le Premier ministre a affirmé lors d'un discours ce lundi que l'assassinat barbare de Samuel Paty nous laisse dans un état de sidération collective et a dénoncé un acte contre la République. Depuis le Congrès des régions où il s'est exprimé, les présidents des 13 régions de France ont observé une minute de silence. Jean Castex a aussi promis d'autres actions et mesures pour lutter contre l'islamisme radical et contre la haine en ligne. Fin de citation. La ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa, a réuni ce lundi à Nanterre les responsables des services de police et les patrons de la police et de la gendarmerie afin d'étudier de nouvelles dispositions renforçant la lutte contre le cyber-islamisme qui s'est développé, selon la ministre. L'attaque a entraîné une mise en cause des réseaux sociaux, accusée d'avoir relayé les messages stigmatisant le professeur d'histoire. Elle annonce par ailleurs que les patrons France des réseaux sociaux et des plateformes sont convoqués ce mardi. Et puis du côté du monde du sport, le football professionnel va rendre hommage aux professeurs d'histoire-géographie en observant une minute de silence avant chaque match de Ligue 1 et de Ligue 2 le week-end prochain. C'est ce qu'annonce la Ligue de football professionnel.
Il suffit de passer le pont, c'est tout de suite l'aventure. Laisse-moi tenir ton jupon, je t'amène visiter la nature. L'herbe est douce à Pâques fleurie, jetons mes sabots, tes galoches, et légers comme des cabris, courons après les sons de cloche. Ding ding dong, les matines sonnent en l'honneur de notre bonheur. Ding ding dong, faut le dire à personne, j'ai graissé la patte au sonneur. Laisse-moi tenir ton jupon, courons guilleur et guillerette. Il suffit de passer le pont et c'est le royaume des fleurettes. Entre toutes les belles que voici, je devine celle que tu préfères. C'est pas le coquelicot, Dieu merci, ni le coucou, mais la primevère. J'en vois une blottie sous les feuilles, elle est en velours comme tes joues. Fais le guet pendant que je l'accueille, je n'ai jamais aimé que vous. Il suffit de 3 petits bonds, c'est tout de suite la tarentelle. Laisse-moi tenir ton jupon, j'aurai ménagé tes dentelles. J'ai graissé la patte au berger pour lui faire jouer une aubade. L'or m'a mis sans croire au danger, faisons mille et une gambades. Ton pied frappe et frappe la mousse, si le chardon s'y pique dedans, ne pleure pas mamie qui souffre, je te l'enlève avec les dents. On n'a plus rien à se cacher, on peut s'aimer comme bon nous semble, et tant mieux si c'est un péché, nous irons en enfer ensemble. Il suffit de passer le pont, laisse-moi tenir ton jupon. Il suffit de passer le pont, laisse-moi tenir ton jupon.
Radio Bonheur.
Le magazine des déchaînés du football, 20h et 5 minutes, on retourne au Roudourou hein, avant le match, on l'a dit, pour cette 7e journée du championnat de Ligue 2. Dernier match, Guingamp reçoit Auxerre dans quelques minutes à 20h45. Avant de parler de Guingamp et de la Ligue 2, on continue de parler notamment des surprises que nous avons connues ce week-end dans ce nouveau tour de la Coupe de France.
Oui, nous avons eu la Montagnarde qui a créé sans doute la sensation hein, de ce 5e tour de la Coupe de France en éliminant l'un des deux gros hein, de ce tour, Concarneau, club de National. Mais il y a aussi eu Dinard dans le nord de l'Ille-et-Vilaine, on sait qu'on nous écoute là-bas. Dinard qui a éliminé presque à la régulière, en tout cas avec un score assez net, 2-0, l'AS Vitré, club de National 3. Et nous avons en ligne le capitaine dinardais, monsieur Anthony Leblanc. Bonsoir Anthony.
Dans quelques secondes Pierre. Alors,
dans quelques voilà, instants, Dinard qui a gagné 2-0, but de Tréhel à la 29e et de Lepage à la 78e minute. Ça, c'est quand même une surprise de voir des clubs de National, National 3 déjà éliminés. Mon petit Gaëtan, ça fait un petit écrémage avant le tour suivant. On rappelle que les Ligues 2 n'entrent qu'au 8e tour.
Exactement.
Cette saison.
Ouais, habituellement, c'est au 7e. Là, ce sera au 8e cette année. Ça fait un écrémage, comme vous le dites, Pierre, parce que des clubs de National 3, ça peut arriver, mais quand on voit Concarneau en National, qui est battu par une équipe de R1, ça fait quand même un sacré écart. Mais même pour Vitré, hein, parce que Vitré est en National 3 et Dinard est en Régional 2, quand même deux divisions d'écart. On sait qu'à ce niveau-là, ça peut quand même avoir une incidence importante, d'autant plus que Vitré était en N2 l'année dernière. Hein, donc c'est quand même un club qui est entre N2 et N3 et qui a été battu par une R2.
Bonsoir, monsieur Anthony Leblanc.
Bonsoir, monsieur Dufail.
ça va très bien. Vous-même, c'est surtout à vous que je retourne la question. Après cette victoire 2-0, comment on se sent à J+2?
Eh ben, on se sent forcément très très bien après un bon week-end comme ça et une belle victoire.
Comment s'est dessinée cette victoire? Parce qu'on le disait, R2, N3, il y a quand même deux niveaux d'écart. Vitré qui était en N2 encore l'année dernière. Comment déjà vous avez préparé ce match? Comment vous êtes programmé pour sortir l'exploit?
Eh ben, on n'a rien changé à nos habitudes. Très sincèrement, on n'a rien changé. Voilà, on s'est simplement mis en mode Coupe de France. Ça, c'est une belle équipe de N3. Mais voilà, depuis ce matin, j'entends ou je vois dans les journaux exploit, mais je ne suis pas du tout en accord avec ce mot-là. Parce qu'il n'y a que deux niveaux d'écart et que dans un match de Coupe de France, tout est possible. Et que à partir du moment où on se mentalise et on sait que c'est possible de le faire, et ben on peut le faire comme ce week-end.
C'est vrai que c'était un petit peu un piège de tomber sur ce FC Dinard. Vous êtes un club qui est là depuis longtemps à ce niveau-là et qui en plus est en train de se structurer, commence aussi depuis quelques années à avoir des joueurs qui ont joué au niveau au-dessus. Je pense à vous qui avez joué longtemps à Saint-Malo en N2, N3. Vous êtes un peu l'équipe piège finalement quand on tombe sur vous.
Exactement. Le club est en train de se structurer sur quelque chose de vraiment top au niveau déjà tout d'abord des jeunes et ensuite de la catégorie senior, où effectivement il y a de plus en plus de garçons qui viennent des catégories d'au-dessus, mais c'est qu'il y a un projet qui est ambitieux, un projet qui est dynamique, avec un bureau qui est jeune. Et voilà, on sent une réelle volonté de faire monter Dinard déjà tout d'abord au niveau R1, ce qui serait une normalité, on va dire. Mais le chemin est compliqué et long, et ça se ne fait pas en un claquement de doigts, pardon.
Voilà, c'était ma question suivante. Quel est le projet à moyen terme de Dinard? C'est de monter en R1, peut-être un petit peu plus?
Non, il est très clair. Déjà, la priorité reste la R1, parce qu'on se doit d'avoir un autre club que l'US Saint-Malo en R1. Ça me paraît logique. Et puis après, on verra. Mais pour l'instant, voilà, il y a le chemin qui est encore long pour accéder au niveau R1. Et voilà, que ce soit cette année ou l'année suivante ou dans 3 ans. Mais en tout cas, voilà, la priorité, c'est la montée. Et il faut pas brûler les étapes et être concentré sur match après match. Et puis on verra à la fin d'année.
Il y a déjà le discours du professionnel là-dedans. Oui, je vois ça. L'objectif aussi à court terme, c'est peut-être de battre vos aînés qui, il y a 12 ans, maintenant en 2008, ont atteint le 7e tour. On s'en souvient ici à Guingamp parce que c'était à Roudourou, le premier match de l'épopée jusqu'au Stade de France en 2009. Il y avait eu donc ce Dinard Guingamp. Est-ce que c'est l'objectif aussi que vous êtes fixé au club d'au moins atteindre ce stade-là?
Pas d'objectif, effectivement, on en a parlé notamment avec une personne que vous connaissez bien, c'est monsieur Julien Fabrice.
C'était le gardien de Dinard lors de ce match.
Exactement, et puis on en a parlé à la fin du match, et effectivement, on s'est remémoré un peu les souvenirs de ce match. Mais pourquoi pas, après on verra, on se fixe pas d'objectif. La coupe, c'est la coupe, c'est que du plus pour les joueurs, c'est notre petite cerise sur le gâteau. Mais voilà, il y a pas d'objectif, c'est qu'on prend les matchs après les matchs. Et puis, mais là, par rapport à samedi, on a fait vraiment un match très intéressant. Et puis c'est surtout sur ce côté mental où on a fait quelque chose de vraiment fort. Et si ça peut marquer le début du championnat, parce qu'on n'est pas très bien parti, mais si ça peut être un petit motif pour bien démarrer la saison, ça peut être top.
Dernière question, un peu plus personnelle sur vous, qui avez connu un huitième de finale de Coupe de France avec Saint-Malo. Vous faisiez partie du groupe de cette formation. Est-ce que, du coup, vous vous sentez, alors peut-être pas non plus investi d'une mission, mais voilà, vous savez comment ça fonctionne, vous savez quels sont les pièges à éviter. Est-ce que vous conseillez un peu plus vos coéquipiers par rapport à ça?
C'est mon rôle parce que on a une équipe qui est un panache entre la jeunesse et l'expérience. Et si moi, par rapport à mon expérience personnelle, je peux apporter quelques petites pistes ou par moment au niveau des matchs, il faut faire attention de pas trop s'enflammer ou faire attention entre les temps forts et les temps faibles. Et ben c'est là-dessus effectivement que cette expérience peut amener quelque chose pour le club. Effectivement.
Merci beaucoup, Anthony Leblanc, d'avoir été avec nous et à bientôt peut-être pour un dinar Guingamp sur Radio Bonheur.
Avec très grand plaisir.
Alors on l'espère. À bientôt. Merci. Bonne soirée.
Au revoir.
Bonsoir. 20h11,
on fait un petit salut,
football, ouais.
Un petit salut amical, il est peut-être en train d'écouter à notre Ayano G National qui a été longtemps le gardien de Dinard qui est parti cet été. Bon, voilà, il a loupé cet exploit-là, mais voilà, on le salue. Et on va parler maintenant, alors on va leur demander, eux, si pour eux c'est un exploit, Uzel Merléac, ce qu'ils nous ont fait les costards mauricains ce week-end. Ça va être donc la dernière partie du magazine avant de se projeter donc vers le Guingamp. On va parler donc de cette équipe qui nous a surpris dans le 22.
Uzel Merléac, effectivement, qui est qualifié pour la première fois de son histoire pour le 6e tour de la Coupe de France. Le 5e tour, c'était déjà arrivé en 2012 contre Dinan Léon notamment, mais le 6e jamais encore avant donc cette victoire aujourd'hui ce week-end contre Guy Primessac. Uzel Merléac, c'est un club de R2 qui a éliminé Guy Primessac, club de National 3. C'est le même scénario donc que Dinard qu'on avait à l'instant. Une victoire au tir au but pour l'équipe de James Le Potier,
qui en plus a joué à 11 contre 10 pendant quasiment tout le match, pendant 80 minutes.
10e minute, il y a eu l'expulsion de Baza, si je ne me trompe pas,
exact.
Du côté de Guy Pri Messac. Pour revenir sur ce match, on a le capitaine d'Uzel Merléac qui est avec nous, Thibaut Grandjean. Bonsoir Thibaut.
Non, il faut attendre un tout petit peu parce qu'on a des soucis portables.
Un partout alors. On va attendre notre invité d'Uzel Merléac dans quelques instants. On a parlé de la composition de Guingamp. On va se projeter donc sur ce match de Ligue 2 contre Auxerre. On peut vous parler aussi maintenant de la composition d'Auxerre. On y reviendra aussi un petit peu plus tard. Donovan Léon sera dans le but en défense.
Voilà,
nous aurons Arcus, Bernard, Rocha, Joubal et Lioris. Avec Coef aussi, on aura Touré, Ngando, Autrette, Le Bihan et Dugimon pour cette équipe d'Auxerre. Mais priorité évidemment à Uzel Merléac.
Oui. Bien sûr, avec le capitaine Thibaut Grandjean. Bonsoir Thibaut.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Alors comment on se sent quelques heures après cette qualification contre Guy Primessac, qui surtout permet à Uzel Merléac d'accéder à son premier tour, pour la première fois pardon, au 6e tour de la Coupe de France?
Fier surtout déjà. Fier du parcours qu'on a fait, fier d'avoir montré nos valeurs, défendu nos couleurs sur ce match. Ouais. Sur tout ça qui prime, ouais.
Alors avant les tirs au but, parce qu'on rappelle que le score c'était 0-0, victoire 4 tirs au but à 2, le match aurait pu tourner à plusieurs reprises. Il y a d'abord l'expulsion de Baza du côté de Guy Primessac, Guy Pri qui touche deux fois les montants, puis à votre tour vous touchez également la barre. Ça a dû être un ascenseur émotionnel aussi assez important pendant cette rencontre.
Bah, c'est sûr que le rouge change pas mal le match, on va pas se cacher. Peut-être qu'à 11 contre 11, forcément, ça aurait été beaucoup plus dur. Après, c'est sûr, il touche deux fois les montants, mais c'est pas sur des actions forcément construites. C'est un petit peu des cafouillages et ça finit sur la barre. Et nous, derrière, c'est pareil, on a une barre aussi. Dans le jeu, ils ont un peu plus de maîtrise, mais je pense que sur l'ensemble du match, on a plutôt bien rivalisé. On a essayé d'aller placer quelques contres et après, ça aurait pu tourner dans un sens ou dans l'autre. Et après, on a fait le taf après au tir au but.
À quel moment justement vous avez senti que Guy Primessac était prenable dans cette rencontre?
Forcément, on disait que plus le match allait avancer, là en plus avec le rouge, on a senti qu'il commençait un petit peu à s'énerver, qu'à la mi-temps déjà ils allaient se faire remonter. Donc Donc voilà, forcément, en deuxième mi-temps, on sentait que plus le match avançait, en fait, plus il s'énervait et plus on savait que si on allait au péno, on avait un gardien qui avait montré les deux tours d'avant qu'il pouvait faire le travail. Donc on avait confiance en nous pour la suite, quoi. Du coup, plus le match avançait, plus on sentait que ça allait le faire, quoi.
Alors il y a quelques instants, on avait un joueur de Dinard avec nous, Dinard club de R2 qui a éliminé Vitré club de N3, même configuration donc que vous avec Uzel Merléac. Il nous disait que c'était pas forcément un exploit d'avoir sorti une équipe de division au-dessus. Comment vous voyez justement votre prestation? Est-ce que c'est un exploit pour vous d'avoir sorti Guy Primessac?
Oui, je pense que ça reste quand même un exploit parce que la hiérarchie fait que normalement ils auraient dû être au-dessus de nous et faut pas minimiser ce qu'on a fait. Ils avaient quand même en face il y avait quand même des grosses individualités. Ça a été très dur quand même de les contenir. Je pense que défensivement il a fallu faire quand même un très gros match. Donc, je pense que ça reste un exploit. Ça va rester ce qu'on a fait hier, ça va rester gravé dans le club. Donc, pour moi, ça reste quand même un exploit, même si après sur le match, ce qu'on a fait, ils ont pas forcément été très au-dessus, mais on a senti qu'il y avait quand même quelques mecs chez eux qui pouvaient faire la diff à des moments. Et voilà, ça reste pour moi, ça reste quand même un exploit. Ouais.
Et maintenant que vous êtes au sixième tour de cette Coupe de France, quel tirage espérez-vous pour la suite de l'aventure?
Encore une grosse pareil à la maison, quoi. Ce serait super. D'ici après on va pas s'enflammer. Justement, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un exploit. Ça va être dur, forcément ce sera dur à rééditer, mais on est capable de le faire. Voilà, faut pas d'équipe en spécialement, mais une équipe au-dessus à la maison pour pouvoir faire même pour que le club puisse en tirer des bénéfices, quoi.
Et bien c'est tout ce qu'on vous souhaite, Thibaut Grandjean, avec votre équipe de l'AS Uzel Merléac. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Merci, bravo.
Bonne soirée, merci, au revoir.
Merci, bonsoir.
Bonsoir. 20h18, les déchaînés du football. On va poursuivre avec la Ligue 2 dans quelques instants. On va marquer une petite pause, hein, les réclames. Et puis on passe à la Ligue 2 et nous débuterons cette soirée avec le match contre Auxerre dans quelques minutes. Hein, début de la rencontre maintenant à 20h45. Juste un petit mot avant, est-ce qu'il y aura du public ce soir au Roudourou? 1000 ou 5000 ou...
5000. La jauge est à 5000, mais bon, il restait encore des places hier soir. Donc on ne sera pas à 5000, mais on a encore cette jauge ici,
ouais,
à Roudourou.
Ah, parce qu'il y a des stades où on est limité à 1000, hein, et même des matchs qui vont se jouer à huis clos, hein, dans les prochains, enfin le week-end prochain, on le sait déjà, il y a pas mal de matchs qui se joueront à huis clos le week-end prochain.
On était en plein dans le couvre-feu samedi soir, mon petit Gaëtan, à Paris.
Ah oui, je suis arrivé, j'étais presque en délai.
Il y a eu la voiture balai juste derrière vous.
C'est ça, mais bon, on n'a pas ça ici pour l'instant.
20h18, 20h19, on se retrouve dans un instant.
100% Showroom Privé présente le dilemme de Camille.
Je trie toutes mes ordures, j'essaye de manger bio. Faut que je pense à la planète, que je sois plus écolo. Mais je veux rester coquette et être bien dans ma peau. Pourquoi devrais-je choisir?
Notre engagement, faire grandir notre sélection de produits plus responsables. Et toujours jusqu'à moins 70% sur les grandes marques.
Showroomprivé.com.
Responsable de votre plaisir. Découvrez nos engagements sur showroomprivé.com.
Ce soir je dis Just Eat, Burger King, Subway, Planet Sushi, à deux sur un nuage, bébé. Ce soir je te dis Just Eat, Just Eat, c'est toi qui choisis, bébé.
Les grandes chaînes débarquent sur Just Eat, Subway, Burger King, Planet Sushi. Qu'est-ce qu'on attend? Téléchargez l'appli. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Je suis allée chez médecin pour mon bilan habituel. Je lui ai parlé de mes maux de gorge à répétition et il m'a proposé de m'accompagner pour essayer d'arrêter la cigarette. 40 ans que je traîne cette mauvaise habitude. Il m'a conseillé les patchs et les pastilles. Il m'a affirmé que c'était efficace. Il m'a fait une ordonnance. Bah oui, parce qu'en plus, c'est remboursé. Et ben, ça fait un mois que j'ai pas touché une cigarette. Je vais mieux et mon portefeuille aussi. Comme quoi, pour arrêter de fumer, c'est quand même mieux d'être accompagné par un professionnel de santé.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
2 millions. 2 millions, c'est le nombre d'emplois directs ou indirects du secteur du tourisme en France.
Alors nous, au Crédit Agricole, on se mobilise et on propose pour vous, professionnels du tourisme, le prêt garanti par l'État 16 ans, basé sur vos 3 meilleurs mois de 2019. Parce que notre rôle, c'est de vous aider à continuer votre activité. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Formidable.
Conditions du prêt fixé par la réglementation en vigueur, sous réserve d'études et d'acceptation par votre caisse régionale prêteur.
Bah alors, t'étais où hier? J'ai essayé de t'appeler toute la journée.
Ah oui, j'étais avec mon assureur.
Ton assureur?
Bah oui, tu sais que c'est la galère pour avoir son assureur. J'ai attendu 4 heures au téléphone.
Bon, attends, t'es bien chez Direct Assurance? Ils répondent toujours. Ils sont même dispo par Messenger et WhatsApp.
Ah oui, c'est vrai.
Bah, moi, je crois que t'as passé la journée avec Florian.
Déjà, c'est pas Florian, c'est Florent.
Oui, bon.
Chez Direct Assurance, votre conseiller est disponible par téléphone, Messenger ou WhatsApp. Direct Assurance, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS. Coordonnées de l'intermédiaire et conditions détaillées sur directassurance.fr.